Merci beaucoup pour les organisateurs. Je suis vraiment honoré par l'invitation et j'espère que je peux vous partager quelques informations intéressantes et peut-être utiles. Étant donné que ce matin, notre collègue Onyeko Adam a dit que peut-être l'intrus de ce colloque, étant donné qu'elle parle de la littérature du 19e siècle au lieu de celle 20e, dans ce cas-là, peut-être je suis l'intrus avec majuscule parce que je suis historien et je vais parler de mes recherches historiques. Au cours des cas, quand même, j'utilise un corpus littéraire dont l'utilisation et peut-être les résultats peuvent être intéressants pour tout le monde, au moins je l'espère. Mais pour ça, il faut un peu faire l'introduction à ces recherches, à ces sujets, qui sont finalement les relations, les rapports militaires franco-hongroises pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai une petite question, je regarde surtout à Gézor. Qui a le hongrois sur cette photo qui est assez connue que peut-être en France? Mais qui a le hongrois? Gézor peut-être a déjà lu quelques pages, mais il n'y a pas d'un visage attaché. Voilà le monsieur qui porte des lunettes de soleil, des lunettes tentées en raison de ses blessures de gaz pendant la Première Guerre mondiale, qui s'appelle Raoul Magrin-Vernely, alias Ralph Monclar, sous son nom de guerre, qui est né à Budapest d'un père hongrois inconnu, d'une mère française. Et d'une manière très intéressante, c'est Bayomi qui nous dit que probablement c'est un membre de la famille Esterházy qui était son père. Normalement, on n'en sait rien parce que j'ai regardé les archives, il n'y a pas d'informations, c'est un enfant illégitime, on sait. Voilà, Bayomi qui a déjà donné les informations historiques de premier ordre. On va parler de ses relations, on va parler de Endre Bayomi Lazar parce que bien évidemment, elle est cruciale pour nous. Il faut ajouter qu'il y a certains ouvrages qui sont encore plus intéressants que les autres de ses œuvres, étant donné qu'il se concentre plus ou moins sur cet aspect militaire qui nous intéresse. Et finalement, quels sont les nouveaux résultats? Parce que j'ai promis que je vais parler de la comparaison des recherches historiques avec les résultats, ce que Bayomi a obtenu. Voilà, on voit des résistants hongrois après la libération. Et finalement, ce qui cause une certaine dichotomie pendant ces recherches, que normalement la majorité des gens supposent que la Hongrie et la France étaient en état de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, bien qu'en réalité, on sait bien, les historiens, les experts, que ce n'était pas le cas, parce que la France a déjà terminé la guerre, plus ou moins avec un armistice, quand la Hongrie, un an plus tard, a commencé. C'est pourquoi, quand même, on pense qu'il y a une certaine hostilité ou des réticences, mais même ce n'est pas le cas. Parce qu'en finalement, il y a un certain rayonnement ici, il ne faut pas expliquer pourquoi. Et en plus, même sur le niveau de la politique officielle, il y a plutôt une certaine sympathie envers la France mutilée lors de l'armistice. Mais quand même, il n'y a pas de coopération bilatérale officielle. Et c'est pourquoi les exemples, ce qu'on va regarder, sont plutôt liés à des actions individuelles, pour des formations inventées, qui ne sont pas officialisées sur le niveau des relations diplomatiques. C'est pourquoi ici on peut voir un peu de tous, vraiment une grande mosaïque, c'est-à-dire il y a des unités françaises, françaises libres, allemandes, hongroises, officielles, clandestines, on peut continuer. Et peut-être ce qui est surprenant, ce qui était surprenant pour moi aussi, quand j'ai commencé mes recherches, j'ai pensé que peut-être je vais trouver quelques noms, ou quelques douzaines de noms. Il y en a quelques milliers. Et à partir de ça, quand même, c'est déjà quelque chose qui mérite d'être examiné d'une manière un peu plus approfondie. Quels sont les éléments, quels sont les chapitres de ces relations? Selon moi, cette répartition, ce que j'ai créé d'une manière un peu volontaire, il faut parler des Hongrois qui ont servi sous les drapeaux français en 1930-1940, parfois volontaires, parfois mobilisés, ayant déjà la nationalité française. Il y a également des Hongrois, des volontaires, sous les drapeaux du général de Gaulle, bien évidemment, on a déjà vu un personnage. Il y a, comme on a vu aussi, des combattants hongrois au sein de la résistance française. Il ne faut pas oublier les prisonniers de guerre français internés. Il y a deux mois peut-être, Gézor était bien présent, malheureusement, je ne pouvais pas être ici en raison de mes obligations universitaires. Il y avait un événement scientifique qui a été consacré à ce chapitre qui est peut-être déjà mieux connu qu'auparavant, surtout au travail de M. Bayomi et à M. Labzi Asseger. Et en plus, il y en a une cinquième qui ne se voit pas tellement bien parce que finalement c'est quelque chose qui n'a pas été mentionné auparavant, finalement des coopérations de fortune au front de l'Est. parmi les unités allemandes remplies par des Français et par les formations hongroises qui ont lutté également sur ce théâtre d'opération pendant cette époque-là. Qui sont les personnages qui peuvent être concernés potentiellement? D'une part, les membres de la diaspora hongroise qui se trouvent en France. Par rapport à son effectif, il y a des estimations qui sont assez différentes. Parfois, on peut lire sur 15 000 personnes. Il y a des mémoires où on mentionne 70 000 de personnes. Quand même, je pense que nous sommes peut-être assez réticents par rapport à ces chiffres. On peut dire que plusieurs dizaines de milliers de Hongrois vivaient en France pendant les années 30, et en même temps, bien évidemment, d'autre côté, nous pouvons parler d'un certain contingent de Français qui ont trouvé un refuge en Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale, dont le nombre oscille entre 800 et 1000 personnes, selon les recherches les plus récentes. Par rapport à André ou André Wajomi-Lazar, nous avons déjà reçu finalement des informations très intéressantes et très pertinentes. Il faut savoir que peut-être ce qui est la plus importante dans son ouvrage, c'est vraiment qu'il a consacré sa vie et son ouvrage pour le rapprochement culturel franco-hongroise, c'est-à-dire que pratiquement presque la totalité de ses ouvrages sont consacrés à la meilleure connaissance des deux pays, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment des ouvrages qui ont été publiés en Hongrie et en France, et finalement c'est toujours sur l'autre. C'est-à-dire que finalement, de ce point de vue-là, c'est vraiment un travail immense qui a été réalisé par lui pendant cette époque-là, et parfois même sous d'autres noms dans la presse française, comme on peut voir ici aussi. Voilà un visage pour le nom. Il faut mentionner qu'à côté de son activité journalistique, finalement, peut-être les ouvrages qui sont consacrés pour les relations culturelles franco-hongroises sont les plus importants, dans lesquels finalement il retrace la relation de ces rapports à partir du 14e siècle jusqu'à l'époque contemporaine, on peut dire. Et à côté de ça, il y a pas mal de grands personnages de la vie littéraire française qui sont également présentés pour le public hongrois, comme par exemple dans cet ouvrage, ce qu'on peut voir ici. Il faut ajouter que finalement, après les deux décennies, ce qu'il a passé en France à partir du début des années 30 jusqu'au tournant des années 40-50, en Hongrie aussi, Wajomi-Lazar mène une carrière d'éditeur, de rédacteur journalistique, et ainsi finalement, grâce à lui, qu'il y a un grand nombre d'ouvrages qui sont traduits vers le hongrois. On peut dire qu'il y a un peu de tous, mais peut-être ce sont les romans qui sont dans une position privilégiée dans cette activité traductrice, parmi lesquels on peut voir plusieurs nombres qui sont assez connus, je pense. Mais bien évidemment, il y a d'autres genres littéraires, comme par exemple une pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre. Qui m'intéresse particulièrement, c'est pourquoi je voudrais parler un peu plus longuement de ce chapitre peut-être moins connu ou moins mentionné de Wajomi-Lazar, ce sont les ouvrages qui partent surtout de cette époque, de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et surtout des relations franco-hongroises, des relations militaires franco-hongroises souvent. Étant donné que son intérêt est tout à fait justifié, car il a vécu en France, même très brièvement il a participé à ces actions, théoriquement il était également volontaire en 1939, mais en raison de son état de santé, finalement il a été renvoyé, et peut-être c'est pourquoi il avait la possibilité de survivre les événements qui étaient plutôt liés pour ces volontaires, pour ces formations qui ont été créées à partir des volontaires hongrois. Mais quand même, c'est pourquoi ses connaissances, son réseau de connaissances était tellement pertinent, était tellement vivant, même pendant la guerre et après la guerre, qu'il a eu la possibilité, ce que nous n'avons pas. Il a eu la possibilité de faire des interviews, de garder les correspondances, comme c'était Mme Tuchkes qui m'a mentionné que finalement il y a pas mal de correspondances qui ont gardé et qui sont finalement utilisées même aujourd'hui aussi. C'est pourquoi finalement on peut dire que c'est vraiment une grande fortune qui ne sont pas encore exploitées sur un niveau assez élevé. Quels sont les ouvrages qu'on peut mentionner en premier lieu? Bien évidemment, il y a les livres autobiographiques qui ont été publiés par Bayomi, Paris, je ne me reste pas, Paris ne me laisse pas, Paris, je suis là, qui interscrète Paris tremblant, comme une étoile. Et ça, de nouveau, il faut accentuer des événements, des sources de premier ordre, de grande envergure, étant donné que même les détails les plus banaux, qui sont tout à fait évidents pour l'auteur et pour les contemporains, sont des sources d'informations qui sont normalement inaccessibles pour le chercheur de notre époque. Et c'est pourquoi souvent des petites remarques ou des ajouts sont des sources d'informations les plus précieuses pour les historiens qui essayent de connaître finalement ces relations militaires relativement peu abordées jusqu'ici. Il faut ajouter qu'après la Seconde Guerre mondiale, très récemment, Bayomi a déjà consacré un ouvrage pour la participation des Hongrois dans la résistance française. Et finalement, cet ouvrage qui est pratiquement inaccessible en Hongrie se trouve dans la Bibliothèque nationale de France. Mais heureusement, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une version, on peut dire une version primitive, disons comme ça, une version originaire en langue hongroise dans les archives militaires de Budapest. Montre bien que ce sont surtout des journaux clandestins dont les articles sont utilisés pour la création de cet ouvrage. Et ainsi, finalement, ce sont des ouvrages qui ont été tirés d'une manière clandestine. C'est pourquoi aujourd'hui, ce sont pratiquement entièrement inaccessibles. Et grâce à cet ouvrage, finalement, nous avons une image qui est peut-être idéologiquement un peu tournée vers la gauche, bien évidemment, mais en même temps contient des informations, des détails vraiment très précis qui sont tout à fait intéressants pour les chercheurs. L'ouvrage dont finalement l'importance historique peut être le plus grand, c'est Ego sum Gallicus Captivus, qui retrace l'histoire de ces prisonniers de guerre français qui ont évadé vers la Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on peut dire que cet ouvrage qui contient surtout des mémoires des participants de cette aventure, de ce chapitre de l'histoire franco-hongroise, tout à fait intéressant, étant donné que ce sont de nouveau des personnages qui ont donné des informations qui étaient encore relativement récentes. C'est pourquoi nous avons bien plus d'informations que dans les archives, ce que j'ai fouillé dans tous les deux pays, et qui ne contient pas de tels détails, étant donné que ce sont souvent les détails personnels qui donnent les plus d'informations. Et finalement, peut-être l'ouvrage qui est le plus important de notre point de vue, de ces recherches historiques, c'est Tramontana, modernként a Cseh Franciaországban, Tramontane, volontaire hongrois en France, qui finalement est vraiment un ouvrage de première importance, de point de vue que plusieurs chapitres, ce que je vous ai présenté à tout à l'heure, sont présentés d'une manière tout à fait détaillée par Bayomi, c'est-à-dire que ce sont pas seulement les mémoires et pas seulement les correspondances, mais même des recherches historiques réalisées par l'auteur lui-même qui sont ajoutées à ce travail. Et c'est pourquoi finalement on peut dire ce qu'on pouvait faire à partir de la Hongrie dans les années 70, dans les années 80, ont été faits par l'auteur. Et c'est pourquoi à ce niveau-là, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est un travail tout à fait intéressant, mais même aujourd'hui c'est aussi un tout petit peu oublié, on peut dire, et très peu utilisé par les historiens spécialistes de cette époque-là. Il faut ajouter qu'en même temps, les recherches ne peuvent pas être abouties ici, car aujourd'hui nous sommes dans les années 2010, il y a bien plus de possibilités qu'à l'époque, quand finalement on ne peut pas cacher quand même que malgré la possibilité de voyager et malgré la possibilité de fouiller dans les archives, il y avait plusieurs portes qui sont restées fermées devant les chercheurs venant du pays au-delà de rideaux de fer. Et c'est pourquoi finalement quand j'ai commencé à regarder les inventaires des archives militaires, les archives nationales à Paris, j'ai trouvé plusieurs documents qui ne sont pas mentionnés, qui ne sont pas utilisés par M. Bayomi, et même c'est lui-même qui se plaint que finalement il y avait certains dossiers qui n'ont pas été restitués. C'est pourquoi on peut penser qu'à cette époque-là, ces informations étaient encore trop sensibles selon les archivistes, selon les décideurs de ces établissements. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on peut compléter finalement ce travail. Et en plus, un élément tout à fait bizarre, que même une partie de ces archives ont perdu lors des temps et ont a été redécouvert il y a très peu de temps, c'est-à-dire qu'à partir de 2015, il y a déjà certains documents qui sont peut-être les plus précieux, étant donné qu'on peut voir les informations relativement détaillées sur les volontaires qui sont parfois anglois, parfois d'autres nationalités. C'est pourquoi finalement, je pense que ce sont en premier lieu les ajouts les plus importants. Et si on essaie de comparer les résultats de Bayomi avec ce qu'on pouvait tirer aujourd'hui, on voit que Bayomi a réalisé un travail exceptionnel, étant donné que dans la propagande, dans la littérature officielle de l'époque, on a parlé souvent des volontaires au nombre de 3000, même parfois 6000 personnes en 1939-1940 qui étaient hongrois, qui voulaient servir sous le drapeau français. Et Bayomi a dit que quand même il faut se méfier, peut-être ce chiffre bien plus modeste, et il a dit que personnellement, c'est plutôt un pressentiment, pas vraiment une information ce qu'on peut valider, mais selon lui, c'est autour de 1300-1600 personnes. Et voilà, selon les documents qui ont été retrouvés, ce qu'on peut utiliser aujourd'hui déjà, je ne pouvais identifier qu'à peine de plus de personnes. C'est-à-dire que quand même son idée était correcte, le grand changement qu'aujourd'hui, il y a déjà des noms précis, il y a déjà des carrières, il y a déjà des données personnelles qui n'étaient pas accessibles auparavant. Il faut ajouter que concernant le nombre des volontaires hongrois dans les rangs des forces françaises libres, Bayomi a parlé, selon ses estimations, à peu près d'un contingent de 150 personnes. Et voilà ce que j'ai trouvé, 149 personnes. On peut dire que voilà, c'est déjà quelque chose qui sont très convergents. Bien évidemment, avec un peu plus d'informations, mais quand même, je pense que c'est une approche très utile. À gauche, voilà une autre photo sur Magrin Vernery. Et à droite, un monsieur qui nous a quittés très récemment, monsieur Yves de Darouvert, peut-être que vous avez lu dans la presse, qu'il était un des derniers compagnons de la libération vivant, qui nous a quittés il y a quelques mois. Par rapport aux évadés, si on regarde les ouvrages qui ont été consacrés pour ce sujet par Bayomi, il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter concernant le séjour en Hongrie, peut-être seulement les documents qui ont été trouvés et édités par M. Lagzi à Szeged. Mais à part de ça, ce qui est peut-être quelque chose qui a une certaine valeur de nouveauté, ce sont les informations qui se trouvent dans les archives militaires françaises, notamment par rapport à la participation du soulèvement national slovaque et du repatriement de ces personnages en France via le port d'Odessa en Union soviétique. Si on essaie de tirer une conclusion qui n'est pas une conclusion tout à fait mûrie, on peut dire, étant donné quand même qu'il y a plusieurs choses qu'il faut regarder, il faut fouiller, et bien évidemment qu'aujourd'hui on connaît déjà les informations plus précises par rapport aux personnages, il faut créer des données, des bases de données, et il faut essayer de tirer à partir de ça des conclusions encore plus détaillées que jusqu'ici. Mais je dois avouer que moi, comme historien, j'ai tous mes respects pour M. Bayomi, étant donné que lui, qui n'était pas historien de métier, finalement a réalisé un travail impeccable, qui est aujourd'hui aussi incontournable, même indispensable. Et c'est pourquoi je pense que les recherches similaires qui sont basées sur une approche interdisciplinaire entre, par exemple, la littérature et l'histoire peuvent être extrêmement enrichissants et très utiles. Et j'espère qu'avec la présentation de ces résultats, peut-être, je pourrais vous montrer l'utilité des approches comme ça. Je vous remercie de votre attention.